RCF.
Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des Forces et des Hommes. Notre émission aujourd'hui sera consacrée à l'armée de terre avec notre invité. Dans un instant, nous allons retrouver notre nouvelle rubrique « Ligne de front » et la voix de son chroniqueur, Thomas Cernot. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Pourquoi je vais vous appeler Thomas?
Thomas, je sais pas.
C'est incroyable. Vous avez un look allemand, je sais pas pourquoi. Et puis nous retrouverons la chronique décapote de Jean-Luc Cottard, notre consultant. Bonsoir Jean-Luc.
J'ai pas envie de décaper.
Il a pas envie de décaper ce soir. Et en deuxième partie d'émission, je recevrai notre invité du mois. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le général Philippe César Baldi, adjoint au directeur des ressources humaines de l'armée de terre et commandant la formation depuis le 1er août 2020 à Tours et délégué militaire départemental d'Indre-et-Loire.
Bonsoir.
Des forces et des hommes sur RCF. Un magazine au cœur de l'actualité militaire.
Bonsoir Thomas, pour cette nouvelle rubrique Ligne de front, de quoi vous allez nous parler ce soir dans le journal de la Défense?
Bonsoir, bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. Vous le savez, les sujets ne manquent pas. Méditerranée, Syrie, Irak, Donbass, Sahel, Haut-Karabakh, les conflits se multiplient, les conflits s'intensifient et ils sont redevenus un moyen essentiel des politiques extérieures des États. Comme le disait Raymond Aron, les relations internationales se déroulent à l'ombre de la guerre. Et si nous avons cru en Occident à la fin de l'histoire, dans les années 90, avec la chute de l'URSS, la réalité nous a très vite rattrapés. Mais fini la philosophie politique, ce soir Arnaud, nous avons décidé de parler de stratégie.
Alors stratégie, et plus précisément de la vision stratégique du chef d'état-major de l'armée de terre, ce qu'on appellera tout au long de cette chronique par l'acronyme CEMAT, c'est pour nos auditeurs.
Exactement. C'était le 2 octobre 2019. Le général Burkhard, chef d'état-major de l'armée de terre, ou CEMAT, avait précisé aux députés membres de la commission défense de l'Assemblée nationale qu'il reviendrait vers eux début 2020 pour leur présenter le nouveau plan stratégique de l'armée de terre pour les années à venir. Or, c'était désormais chose faite. Avec un peu de retard en raison de l'impact de la crise sanitaire sur les événements, le général Burkhard a présenté ce qu'il a dénommé la vision stratégique pour une supériorité opérationnelle de l'armée de terre à l'horizon 2030.
Bon, c'est un peu long, mais alors en quoi consiste cette nouvelle vision, justement?
Ce nouveau plan stratégique pour les forces terrestres tire les conséquences de l'évolution du climat international et de la mutation de la conflictualité. Tel que l'a précisé le CEMAT, que je cite, « les conflits durs entre États restent possibles, voire probables. L'armée de terre doit plus que jamais être prête à produire d'emblée de la puissance militaire pour faire face à un péril inattendu, en sachant encaisser les chocs avec résilience. » Car il est de garde, pour quiconque suit un petit peu l'histoire des relations internationales, que l'éventualité d'un conflit dur entre États se renforce. Comme le souligne le général, le rapport de force est redevenu la règle. Or, on le constate tous, il y a encore quelques années, on attendait l'avis du Conseil de sécurité de l'ONU. Désormais, les négociations se tranchent par le jeu de l'artillerie.
Alors face à cette remilitarisation sans complexe apparemment, et les nouvelles mutations du monde, quelles sont les résolutions du CEMAT pour se tenir prêt à faire face à des conflits asymétriques et ce que l'on appelle aussi de très haute intensité?
Devant l'incertitude et le retour marqué de la force militaire comme mode de règlement des conflits, le général Burkhard a identifié 12 projets qu'il souhaite développer à court, moyen et long terme. Parmi ceux-là, nous en avons recensé deux qui sont à nos yeux les plus importants.
Alors lesquels, Thomas?
Le premier, Arnaud, concerne l'édification d'un concept d'emploi des forces terrestres répondant aux nouveaux impératifs. Les bouleversements géopolitiques que nous évoquions en amont imposent, selon le général Burkhard, un haut degré d'intégration interarmée et interalliée. Autrement dit, le combattant terrestre français doit être formé et entraîné pour à la fois agir avec ses camarades de la Marine nationale et de l'armée de l'air, mais également être prêt à mener des missions avec les puissances alliées de la France, que peuvent être notamment les États-Unis ou le Royaume-Uni.
Alors, second point aussi, Thomas, cela concerne la réserve opérationnelle de l'armée de terre.
Oui, le CEMAT veut rénover la réserve opérationnelle. Il veut lui donner une réelle signification. Aujourd'hui, nous comptons 24 000 hommes et femmes au sein de la réserve militaire. Or, le général Burkhard reconnaît que l'on les exploite peu. Pour y remédier, il propose d'impliquer plus largement la réserve dans les missions intérieures, comme cela aurait pu être le cas avec la crise sanitaire, mais également de lui donner toute sa place dans les opérations extérieures. Les États-Unis ont déployé des éléments de leur garde nationale en Syrie. Pourquoi la France ne déploierait-elle pas des réservistes au Sahel? Bref, la vision stratégique du CEMAT est un plan d'opération ambitieux dont la réalisation demandera du temps, de la pugnacité et une réelle volonté politique de la part des élus.
Eh bien, pour finir, Thomas, un tour de nos armées en 120 secondes. On commence, ou plutôt on poursuit toujours avec l'armée de terre.
Oui, pour l'armée de terre, une nouvelle nous a été directement transmise par l'état-major des armées installées à Ballard. Deux véhicules blindés multirôles, dits Griffon, ces véhicules de nouvelle génération, de plus de 24 tonnes, ont mené des manœuvres de tir sur la base française installée à Djibouti. Ils devraient être déployés dès 2021 au sein de l'opération Barkhane. Or, les premiers retours d'expérience de l'état-major évoquent un bilan positif, offrant une impression de sérénité et surtout un gain de puissance terrestre évident.
Allez, on quitte la terre pour la mer. Du côté des marins, quelle information avez-vous à transmettre à nos auditeurs pour ce mois-ci ?
Nous retiendrons que jeudi dernier, ce n'est pas moins de 30 bâtiments de surface, une quarantaine d'aéronefs et plus de 5000 soldats venus de plusieurs nations alliées qui ont mené des manœuvres militaires dans le cadre d'un exercice OTAN au large des côtes de Provence. Étaient notamment présents des Américains, des Britanniques, des Néerlandais, des Espagnols, des Grecs, des Italiens et des Français.
Dans toute l'Europe, quoi.
Exactement. Dans le cadre de cet exercice maritime interallié, on notera que la Marine nationale a déployé, entre autres, le porte-avions Charles de Gaulle, le porte-hélicoptère amphibie Mistral, ainsi que les deux frégates de défense antiaérienne, le Forbin et le Chevalier de Paul.
Eh bien, pour conclure, je crois qu'il y a du nouveau pour nos pilotes d'hélicoptères, justement.
Du côté des aviateurs, nous retiendrons la nouvelle campagne d'essai de ravitaillement en vol d'un hélicoptère Caracal par un avion de transport A400M Atlas de chez Airbus. L'hélicoptère Caracal est un hélicoptère utilisé par les forces spéciales et cette nouvelle qualification, qui devrait avoir lieu vers 2021 ou 2022, permettra aux commandos de l'air d'allonger notablement leur champ d'action.
Des forces et des hommes sur RCF.
On retrouve la rubrique de Jean-Luc Cottard. Bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir Arnaud.
Il paraîtrait, mon petit doigt me dit, il paraîtrait que vous eûtes participé au rendez-vous de l'Histoire à Bleu.
Flûte.
Je suis bien renseigné.
Flûte, vous êtes bien renseigné. Oui Arnaud, oui. J'ai effectivement participé au rendez-vous de l'Histoire à Blois. Et j'anticipe tout de suite la question, je vous vois venir, c'était très bien organisé,
ah, oui,
les conditions de distanciation sanitaire étaient satisfaisantes. Elles ont même provoqué quelques frustrations, parce que le nombre de places dans les conférences et les différentes tables rondes était limité, voire très limité, et ça c'est dommage.
Alors, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs ce qu'étaient ou ce que sont les rendez-vous de l'Histoire à Blois ?
Eh bien, ces rendez-vous, ils sont annuels depuis 23 ans, et des historiens, des géographes, des économistes se retrouvent autour d'un thème. Cette année, c'était gouverner.
Ah.
C'est l'occasion.
Quelle question.
C'est l'occasion de rencontres, mais aussi de dédicaces. Les rendez-vous, ce sont aussi le plus grand salon du livre d'histoire en France, avec tous les éditeurs, les dernières sorties, les auteurs.
Alors, qu'est-ce que vous y avez trouvé dans ce nouveau rendez-vous, dans ce 23e rendez-vous ?
Beaucoup de choses, Arnaud, beaucoup de choses. Ah. D'abord, le tome 3 de l'excellente collection Mondes en guerre qui vient de paraître. Il traite de la période 1870-1945 avec pour sous-titre...
Bah là où on a tout perdu, quoi.
Guerre mondiale et impériale. Cet ouvrage et cette collection font l'unanimité et ce tome-ci,
oui.
Eh bien, vous pouvez en entendre une critique, une présentation dans le podcast Le Collimateur d'André Luez. Et puis j'ai découvert un remarquable ouvrage d'origine très locale.
Alors... Ah bon ? De quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'un magnifique livre historique richement illustré qui intéressera tous les artilleurs, mais aussi toutes les personnes qui travaillent sur l'évolution des techniques militaires. Il s'agit de « Le canon Moyen-Âge Renaissance ». Mon général,
là,
je vous offre une plaquette parce que le livre ne paraîtra que le 22 octobre.
Alors pourquoi local justement ?
Local parce que l'auteur est un fils du pays. Emmanuel de Cruy-Chanel appartient à la vieille famille qui possède le château de la Guerche, le petit village qui est de 400 habitants au sud du département, juste sur la Creuse.
Ah.
Local parce que l'éditeur, eh ben, c'est les presses universitaires de Tours.
Ah.
L'auteur, je l'ai croisé chez ses parents au cours d'une visite.
Mais comment vous connaissez ses parents ?
Il est passionné par l'artillerie. Ben, je le connais parce que je le connais. Et puis, l'artillerie, les canons, tout ça, ça l'intéresse, l'auteur.
D'accord.
C'est un des auteurs qui connaît le mieux la chose. Et donc, le livre qui paraît le 22 octobre est superbe. Il aborde l'artillerie en France, en Italie et à la Révolution et montre tout ce que cet emploi provoque dans le combat.
Allez, je suis indiscret. Aviez-vous une autre raison d'aller à Blois ?
Comme tous les ans, j'ai participé au rendez-vous de l'histoire grâce à la revue Inflexion, Civils et Militaires, pouvoir dire. Et qui chaque année propose un thème qui éclaire sous l'angle militaire le thème général. L'an dernier, pour le thème l'Italie, nous avions proposé une réflexion sur la campagne d'Italie de 1944, mais aussi sur l'importance de la formation historique des officiers.
Et cette année ?
Pour gouverner, nous avions proposé les conseillers militaires de l'exécutif en France à la fin du XXe siècle.
Alors là, attendez, ça m'intéresse. Vous parlez de ce sujet, et je pense qu'il peut être confus pour nos auditeurs. Comment, justement, est conseillé le président de la République en matière militaire ?
En fait, il faut avoir à l'esprit que le système actuel résulte d'une évolution assez lente.
Alors, soyons efficaces et pragmatiques. C'est quoi le système actuel ?
Eh bien, écoutez, c'est simple, le président décide.
Ah, le président, oui, les chefs des armées.
C'est déjà pas mal.
C'est la constitution.
Exactement, constitution de 1958. Il est conseillé en matière militaire principalement par deux hommes. Le chef d'état-major des armées, qui commande les troupes en opération et s'appuie lui-même sur les chefs d'état-major de chacune des armées, dont le fameux chef d'état-major de l'armée de terre dont Thomas nous a parlé tout à l'heure. Et puis, pour ces chefs d'état-major de chacune des armées sont à la tête d'un réservoir de forces prêtes à être engagées en métropole, comme Sentinelle ou l'arrière-pays niçois, mais aussi à l'étranger. D'autre part, dans l'entourage, le président, dans son entourage propre, le président possède un homme détaché de toute contingence de commandement lourd, qui est le chef d'état-major particulier de la présidence.
Une sorte de voltigeur, quoi.
CEMP.
Ah oui.
La présence de ces deux hommes permet un équilibre qui facilite la prise de décision.
Alors, vous avez parlé d'évolution.
Oui, oui.
Pourquoi ?
Parce que, en fait, ce système se met en place avec la Ve République, ou plus exactement avec la fin de la guerre d'Algérie et surtout l'apparition de l'arme nucléaire française.
Donc la dissuasion, oui.
Il faut en effet avoir en tête que ce système essaie de résoudre quatre difficultés. Premier temps, la crainte du césarisme, c'est-à-dire...
Il l'a fait.
La crainte du césarisme, c'est-à-dire la confusion du pouvoir politique et militaire du type de celle instaurée par Napoléon Ier ou son neveu ou la tentative boulangiste à la fin du 19e.
Vous savez qu'on a quelqu'un qui est issu de la Corse et qui...
Oui, oui.
Voilà, hein, et qui s'appelle César.
Deuxième point, l'évolution, c'est le débat sur le meilleur moyen de faire face à la guerre totale avec le concept de défense nationale qui éloigne un peu les militaires du pouvoir et ne règle pas les problèmes d'emploi des armées et encore moins ceux de leur gestion. Troisième point, celui de l'organisation elle-même. Faut-il une organisation hiérarchique ou en râteau ?
Transversale, quoi.
Ou transversale, éventuellement. Hiérarchique ou en râteau, plus exactement.
Quatrième point,
quelque chose qui revient régulièrement, l'emploi des armées pour le maintien de l'ordre ou l'emploi des armées pour faire ce que les autres ne savent pas faire.
Ah, ça, c'est une grande question. Alors, par contre, si on organise les armées de façon hiérarchique, est-ce qu'on n'augmente pas, justement, le risque de césarisme ?
C'est bien, Arnaud. Je vois que vous réfléchissez bien.
Ouais, j'essaye.
Tous les sujets, les uns par rapport aux autres, se croisent. C'est pourquoi je parle d'équilibre.
Alors, bon, le chef d'état-major des armées commande les troupes et conseille le gouvernement, c'est ce que j'ai compris.
Oui.
Mais je n'ai pas bien compris ce que faisait le chef d'état-major militaire particulier du président.
Eh bien, en fait, le chef d'état-major particulier, CEMP, est le militaire qui, tous les matins, vient faire un point de situation militaire avec le président de la République. Il sert, en fait, de court-circuit, de facilitateur dans les deux sens, entre le président de la République et l'état-major, le chef d'état-major des armées, pouvant venir voir le président de la République, mais moins souvent que le CEMP.
Mais le ministre, actuellement le ministre des armées, on l'appelle, dans tout cela, il fait quoi ?
Ben, le ministre, il gère l'administration en liaison avec les chefs d'état-major, eux aussi. Donc certains, comme Jean-Yves Le Drian, ont été très présents dans les prises de décisions opérationnelles. Mais gérer l'administration, c'est aussi préparer le futur, qui est dans les attributions du chef d'état-major des armées. C'est imposer les orientations politiques et sociales du gouvernement aux armées. La tâche n'est pas mince.
Alors, mais qui est le plus important entre le chef d'état-major des armées ou le ministre ?
Mais ça dépend.
Pour l'aspect
purement opérationnel, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est le CEMA, c'est normal. Pour le reste, y a un ministre, il est là pour ça.
Vous n'êtes pas normand pourtant, non ?
Oui, mais pourtant c'est la réalité. En fait, ça dépend des personnes, ça dépend des personnalités. Mmh. Les institutions sont tellement riches et souples qu'elles permettent l'innovation.
Mais alors, Jean-Luc, je comprends pas.
Arnaud, qu'est-ce qu'il y a ?
On arrive au terme de votre chronique. Et on n'a pas entendu parler du général Monsaber.
Mais c'est parce que je gardais pour la fine bouche.
Ah,
parce
voilà.
que j'allais vous parler du dernier numéro de la revue Inflexion,
oui,
qui a pour titre L'échec. Et dans le cadre de ce numéro, Eh bien, on parle du général de Montsaber dans un article intitulé « 1944, la bataille du Belvédère, un échec victorieux ».
Eh bien, merci Jean-Luc pour cette chronique toujours très intéressante.
Des forces et des hommes sur RCF. L'actualité militaire et de la sécurité intérieure sous toutes ses formes. Arnaud Roy.
C'est bientôt la fin de notre première partie des forces et des hommes. On se retrouve avec notre invité juste après une pause musicale. Je vous propose d'écouter Sophie Ellis-Bextor et son nouveau titre « Crying in the Discotheque ».
RCF à Tours 100.4, à Blois 96.4.
Des forces et des hommes sur RCF. Arnaud Roy.
Si vous nous rejoignez, vous êtes avec nous jusqu'à 19h55 dans Des forces et des hommes. Ce soir, dans cette deuxième partie, nous recevons le général de division Philippe César Baldi de la DRH adjoint de l'armée de terre et délégué militaire départemental ici en Indre-et-Loire. Alors, mon général, avant de revenir sur votre parcours, comment s'est passée votre récente installation chez nous, ici? Je crois que vous connaissiez déjà l'Indre-et-Loire avant d'arriver.
Bonsoir mon cher Arnaud, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices. Effectivement, c'est un retour. J'ai quitté la garnison de Tours il y a 3 ans pour rejoindre Bourges et mes responsabilités de commandant d'école. Et donc je suis revenu à Tours, ville que j'ai retrouvée avec beaucoup de plaisir, tout simplement parce que j'y ai passé de belles années. Et j'y retrouve ma fille qui est restée à Tours.
Qui fait ses études, apparemment?
Non, qui travaille maintenant à Tours. Voilà.
Alors, on peut lire dans votre notice autobiographique que vos services nous ont envoyé, hein, que vous avez été projeté en Bosnie en 2001, voilà bientôt 20 ans.
Tout à fait.
Quelle expérience et quel souvenir de militaire et d'homme gardez-vous de cette période un peu complexe?
L'expérience d'un officier qui exerçait un commandement en situation de guerre, avec ces périodes un petit peu difficiles, mais surtout des souvenirs. Population en difficulté, les enfants qui avaient faim, les bâtiments détruits et ce sentiment que finalement la guerre était à quelques centaines de kilomètres de l'Europe, de la France.
On commande des hommes dans le cadre...
Des hommes et des femmes.
Des hommes et des femmes, oui.
Des hommes
avec
femmes,
un grand H. On commande sous une résolution de l'ONU, mais on est aussi un homme.
Bien sûr.
Et qu'est-ce que l'homme pense à ce moment-là quand il est projeté comme ça dans la souffrance et la misère?
Alors la difficulté, c'est d'essayer de faire la part des choses, c'est-à-dire de conserver cette capacité de lucidité, de maîtriser ses émotions, parce qu'on est responsable d'hommes et de femmes, d'une mission, et de cette mission découle, bien sûr, la capacité d'autres hommes et femmes, de différents contingents, français, internationaux, d'assurer leur propre mission, sous le titre de cette résolution.
Ça vous a aidé pour la suite de votre carrière, cette expérience
Bien sûr, bien sûr, parce que quand vous vous entraînez pendant plusieurs années à être confronté à cette situation un peu inédite, il y a une remise en cause personnelle, c'est-à-dire qu'on passe de la phase entraînement, préparation, à la phase mise en service,
oui, en application.
Réalisation, application. Mmh. Et donc, vous êtes confronté à vos propres engagements.
Alors, on va revenir sur votre formation. Moi, j'étais interpellé, donc je trouve ça intéressant. À la vue de vos différentes formations acquises et promotions, hein, mais aussi de vos expériences d'officier, alors École militaire de Saint-Cyr, diplômé de Supélec, passage réussi à l'école de guerre ou le CID, ça dépend à quelle période on en parle, vous semblez être un homme d'action, voire un combattant, mais aussi un scientifique. Alors, est-ce que c'est pas antinomique?
Pas du tout. C'est même, je pense, une formidable expérience de vie de pouvoir à la fois s'intéresser aux sciences et puis commander des hommes, parce que ça reste la finalité.
Et donc voilà. Les sciences vous ont apporté
des
solutions à votre commandement?
Je pense que ma formation de scientifique m'a permis d'aborder mon commandement sous un angle particulier, celui des références à un certain nombre de principes, à une actualité, et puis finalement à ce défi des nouvelles technologies.
Des forces et des hommes sur RCF, l'actualité militaire et de la sécurité intérieure sous toutes ses formes.
Vous êtes toujours sur RCF dans Des forces et des hommes. Nous sommes toujours en compagnie du général Philippe César Baldi. Mon général, le Covid semble ne pas être derrière nous. Les derniers chiffres de contamination semblent confirmer une importante reprise de l'épidémie. Et d'ailleurs, en Indre-et-Loire, il y avait ce matin le directeur de cabinet de la préfète qui était chez nos confrères de France Bleu Touraine. Alors, en quoi les armées, et l'armée de terre plus particulièrement aujourd'hui ou demain, peuvent-elles contribuer à la lutte contre cette pandémie?
Alors, effectivement, le Covid ne semble pas derrière nous, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui, tout à fait. Et aujourd'hui, on pourrait se référer, par exemple, à ce que nous avons fait lors de la vague 1 ou dans la phase de confinement. Et je pourrais vous parler de mon expérience de DMD dans le Cher,
oui.
Où, dans le cadre de l'opération Résilience, nous avons apporté notre concours au service de l'État pour distribuer masques, gel hydroalcoolique. Et finalement, compléter l'action des services publics qui interviennent toujours en premier rideau. Nous sommes venus compléter cette action au quotidien. Finalement, quelque part, entretenir aussi ce lien armée-nation auquel nous sommes très attachés.
Et qui est assez...
qui était très concret.
Un ADN de la
bien
France.
Bien sûr. Ouais. Et puis qui est très concret. Quand vous amenez du gel hydroalcoolique dans un EHPAD, vous avez une reconnaissance qui vous donne un petit peu... qui donne le sens de votre mission.
Alors, malheureusement, comme un malheur n'arrive jamais seul, le sud de la France a été très récemment gravement touché par de fortes intempéries. Quelques milliers de personnes sont encore coupées du monde. Alors, on a pu voir sur les images de nos confrères la forte implication des armées pour venir au secours de la population. Moi, j'ai une question, en général. Si cela devait arriver en Indre-et-Loire, quel serait votre rôle en la matière en tant que justement délégué militaire départemental?
Alors oui, effectivement, je remets ma casquette de délégué militaire départemental. Donc je suis le conseiller militaire du préfet ou de la préfète en l'occurrence. Les forces armées n'interviennent jamais en premier rideau. Nous allons intervenir en deuxième rideau. Nous allons conduire en situation de crise l'analyse de la situation, écouter les besoins des services publics, des collectivités, des mairies. étudier la capacité militaire à répondre, est-ce qu'un moyen peut répondre, et proposer ensuite dans la chaîne de commandement l'usage de tel ou tel type d'équipement qui pourrait être adapté à l'extraction, le transport logistique, éventuellement l'aide au déblaiement. Toutes ces missions ont complément des services publics, notamment, vous l'avez vu avec la tempête Alex, là où il a fallu rejoindre des zones isolées grâce aux hélicoptères militaires, par exemple.
Donc vous êtes le super conseiller de la préfète d'Indre-et-Loire, vous êtes le facilitateur.
Voilà.
Et le chef d'orchestre.
Alors le chef d'orchestre, lorsque des moyens militaires sont engagés, j'assure la coordination de ces moyens, bien sûr.
Alors, justement.
Avec mon état-major.
Donc, à propos d'interventions en cas de crise sanitaire comme la Covid ou de crise liée à des événements naturels, l'armée a-t-elle vocation, par exemple, d'intervenir en cas de crise liée à l'insécurité ? Parce qu'on entend beaucoup de politiques appelées à l'armée, du sud jusqu'au nord de la France, on les entend, mais est-ce que c'est vraiment le rôle des armées ?
Écoutez, le maintien de l'ordre, c'est le rôle des forces de sécurité intérieure. Voilà. Les armées n'ont pas vocation à faire du maintien de l'ordre. Et je rappelle,
c'est clair.
Voilà. Et je rappelle que les unités sentinelles interviennent dans le cadre de la lutte antiterroriste.
Bien, mon général, je vous propose une nouvelle pause musicale. Hommage ce soir à un grand du rock qui nous a quittés. On va écouter Van Halen, et son magnifique Jump. Vous êtes sur RCF ce soir. We'll be right back.
des forces et des hommes
sur RCF. Des forces et des hommes.
Arnaud Roy.
Vous êtes toujours sur RCF dans Des forces et des hommes. Je suis toujours en compagnie, il n'est pas parti, hein, je suis toujours en compagnie du général Baldi. Alors, mon général, revenons quelques instants encore sur votre parcours, riche bien sûr. Vous avez commencé votre carrière dans l'armée blindée cavalerie à Saumur. Une question me taraude, mon général, moi qui fais beaucoup de wargames avec mes copains. Les blindés et les chars de combat ont-ils encore toute leur place dans les conflits modernes?
Oui, tout à fait, bien sûr. Et vous citiez tout à l'heure dans vos rubriques le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Burkhard, sa vision stratégique avec le retour de la haute intensité, c'est-à-dire un combat entre deux armées conventionnelles utilisant tout le spectre d'armement, artillerie, chars de bataille, voilà, missiles et autres. Oui, le char reste un élément majeur dans la décision, dans la confrontation de corps blindés mécanisés.
Demain, on peut projeter nos Leclerc?
Bien sûr. Bien sûr.
Ils seront utiles?
Dépendra du type de conflit. Mmh. Leclerc à Barkhane a peu d'intérêt.
Oui, voilà, c'est là. Ça. C'est si on revient sur des conflits symétriques entre deux grandes nations et plus asymétriques entre un groupe, une guérilla, Daesh.
Tout à fait. Des armées qui s'opposent avec leur spectre de moyens. Le char de bataille reste l'outil de décision.
Alors, char de bataille, on est dans une ère où on parle de plus en plus de cyber. Vous êtes un fanat a priori de nouvelles technologies. Est-ce que le char a encore une existence possible dans un environnement cyber?
Bien sûr. Pendant des années, on a parlé de la lutte entre la cuirasse et le canon. Aujourd'hui, on parle de la lutte entre les réseaux et la cyber, ou la capacité donc de la cyber à venir casser des réseaux de communication.
Dont des réseaux de communication entre blindés, par exemple.
Par exemple, bien sûr. Et donc, la résilience des réseaux permet aujourd'hui de continuer le fonctionnement, quel que soit le type d'attaque auquel on est confronté. Tout à fait.
Et donc, avec, par exemple, le nouveau matériel de transport Griffon, qu'est-ce que ça a apporté de plus aux armées, ce qui remplace le VAB, hein, le véhicule d'avant blindé qu'on a connu pendant presque 30 ou 40 ans d'ailleurs.
Alors, le véhicule Griffon, qui fait partie de la panoplie Scorpion, c'est un véhicule qui amène un certain nombre d'évolutions majeures, dont l'infovalorisation, c'est-à-dire finalement cette capacité à partager une situation en environnement, une situation tactique entre les différents acteurs, et qui donc donne de l'instantanéité dans la transmission de l'information, de la décision.
Les acteurs, c'est quoi? C'est
le soldat, le groupe de combat, la section, la compagnie, le drone, le char.
L'appui hélicoptère,
bien sûr. D'accord. Cette capacité à partager une information valorisée par la carte, les positions, les menaces repérées. Donc cette infovalorisation donne le plus technologique de ce nouvel équipement.
Alors quelle est la différence fondamentale entre le Griffon et le VBCI, véhicule blindé de combat d'infanterie?
Oui, alors c'est un problème de tranche. En fait, le VBCI est le véhicule qui, sous blindage, accompagne le char Leclerc. Voilà. On est dans la tranche des matériels lourds. Le Griffon et le Jaguar seront dans la tranche médiane, donc matériel de capacité moyenne, donc plutôt sur des théâtres d'opération plutôt dynamiques.
Parce que c'est quand
on va retrouver du Griffon à Barkhane l'année prochaine.
Quand on voit le Griffon, c'est un monstre quand on fait la comparaison avec un VAB.
Bien sûr, mais on a intégré tout le rétex des derniers engagements. Le retour d'expérience, pardon, Monsieur Cotard. Effectivement, on a intégré, et notamment, la capacité à lutter contre les IED, les engins explosifs improvisés.
Thomas, une question?
Oui, mon général, on se souvient de l'utilisation des véhicules blindés dans la Seconde Guerre mondiale, à travers des différentes lectures, notamment celle du général de Gaulle ou de von Manstein. Quelle peut être l'utilisation aujourd'hui de ce type de véhicule dans l'opération Barkhane, en combat urbain?
Alors, le véhicule blindé, alors en fonction de son niveau de blindage, va offrir une protection au fantassin et l'amener au plus près de la zone où il va débarquer pour terminer le combat. Vous savez, on parle toujours de l'armée des combattants des 300 derniers mètres. En fait, aujourd'hui, un véhicule blindé, que ce soit en zone urbaine ou en extérieur des zones urbaines, c'est la capacité à amener des combattants au plus près de la zone de contact en les protégeant de toutes les menaces de l'armement léger.
Alors, mon général...
Avec de la vitesse, et des systèmes technologiques d'appui.
Mis en réseau et...
Voilà, okay. Et un Griffon disposera de la capacité à appuyer son groupe de combat débarqué.
Alors, mon général, vous êtes le patron des écoles de l'armée de terre, des écoles de formation initiale. Vous, en tant que général commandant les écoles, comment est-ce que vous allez traduire la directive et la vision stratégique du général chef d'état-major de l'armée de terre qui vise à renforcer et à durcir l'armée de terre?
Alors, merci pour cette question, effectivement, qui est au cœur de mes préoccupations aujourd'hui. Alors que ce soit aux écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan, avec le projet que vient de présenter très récemment le général Collet, ESCC 2030, que ce soit l'École nationale des sous-officiers d'active à Saint-Bexan, nous avons entamé une transformation de la formation pour donner à nos jeunes lieutenants et à nos jeunes sergents cette capacité à décider en situation de stress, en situation de fatigue, en situation de difficulté, éviter le phénomène de sidération par le feu et conserver cette aptitude à maîtriser, à donner des ordres et finalement à accompagner l'élan que l'on donne à la troupe que l'on commande.
Mais ça s'était perdu, ça ?
Non, ce n'était pas perdu. Ça avait été, je dirais, moins mis en valeur. Et aujourd'hui, le retour à la haute intensité a mis la focale sur ce besoin de redonner du sens à cette formation.
Des forces et des hommes
sur RCF. Des forces et des hommes.
Arnaud Roy.
Toujours en compagnie du général Baldi. Mon général, c'est passionnant, hein, le petit discours, enfin le petit échange qu'on a eu sur les blindés. Vous êtes un spécialiste du matériel, hein, ça se voit, et de la logistique militaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la spécificité de notre armée en la matière en comparaison à d'autres nations? On entend souvent dire que nos militaires font des prouesses en opération extérieure, comme au Mali, avec parfois pas toujours les moyens qu'il faut parce que les pièces détachées. Qu'est-ce qui fait cette spécificité à la française de toujours se débrouiller sur les têtes d'opération?
D'abord, je pense qu'il faut combattre certaines idées sur les manques de moyens. Je pense qu'aujourd'hui, nos soldats disposent de vraies capacités, de vrais moyens. Ce qui fait la différence probablement du soldat français, c'est la capacité à la rusticité. C'est-à-dire que c'est un soldat qui a un spectre d'employabilité assez important. Il est capable de faire avec les moyens que l'on voit, les moyens déployés, mais il est capable aussi en mode rusticité de s'adapter. Et vous évoquiez le cas des logisticiens. J'ai commandé les écoles de la logistique à Bourges. Et nous formons nos spécialistes de la maintenance et de la logistique opérationnelle à être capables de mettre en œuvre tout le spectre, c'est-à-dire la disposition, tous les moyens à disposition, mais aussi des moyens restreints avec la réparation des dommages de combat, les réparations non conventionnelles. Donc en fait, être capable de donner les moyens aux combattants de poursuivre la mission, quel que soit le spectre de situation auquel nous sommes confrontés.
Quand le président de la République, le président François Hollande, décide en 48 heures de projeter les forces françaises au Mali pour éviter donc les avancées terroristes, là, vous, les logisticiens et les spécialistes du matériel, vous êtes prêts en combien de temps à envoyer les premiers blindés et tout, à la limite le garage qui va avec, c'est-à-dire les pièces détachées et tous les techniciens qui vont avec?
Alors, il faudrait un petit peu de temps pour rentrer le détail. Je pense qu'il y a d'abord la combinaison des forces prépositionnées, qui sont donc le premier élément qui peut intervenir. Vous avez aussi en France des forces en alerte, qui permettent donc de rejoindre rapidement un théâtre, avec des dotations initiales. Et puis ces dotations sont complétées au fur et à mesure par les ponts aériens, par les ponts maritimes. Ce qui paraît important, c'est que les véhicules qui sont engagés disposent déjà d'une autonomie initiale, donc une capacité à réagir que l'on va venir recompléter avec le flux logistique. Mais nous avons des mécaniciens, des logisticiens prêts à rejoindre le théâtre pour renforcer la capacité opérationnelle.
Jean-Luc.
Alors, mon général, il semblerait que vous soyez féru d'histoire militaire. Quel est, en histoire militaire, votre centre de prédilection?
C'est pas mon sabre.
Alors non, ce n'est pas mon sabre. Bon, d'abord, comme vous l'avez précisé, j'ai quitté à 18 ans ma Corse natale. Et donc, effectivement, je porte une certaine attention à la période du Premier Empire.
À 18 ans, vous avez quitté votre province
pour paraphraser
une chanson célèbre.
Bien sûr, voilà. Donc, j'ai commencé par m'arrêter à Aix-en-Provence avant de monter jusqu'en Bretagne. Voilà.
D'accord.
Donc, oui, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des deux guerres mondiales, un petit peu au Moyen-Âge aussi. Et le passage par la ville de Bourges m'a aidé à m'intéresser un petit peu à l'architecture Moyen-Âge et sortie Moyen-Âge. Et puis, j'ai eu une passion pour les batailles aéronavales.
Ah, pourtant vous êtes un terrien.
Et voilà. Donc probablement qu'il faut y voir un certain signe. Voilà. C'est pour ça que je suis devenu parachutiste, parce que j'étais pas pilote, donc j'ai décidé quand même de monter dans les avions et de les quitter alors qu'ils fonctionnaient correctement.
Mais combien de sous à votre actif?
Je ne peux pas, je veux dire, je n'ai pas compté.
Pas.
Non, je n'ai pas compté.
Thomas, tu as une question?
Oui, pour continuer, comme le disait Jean-Luc, quand nous évoquions les sujets d'histoire dans l'antichambre de l'émission, quels sont les hommes qui vous ont inspiré et quelles ont été vos lectures de jeunesse qui vous ont fait vous tourner vers les armes?
Alors, la première lecture qui m'a marqué, c'est Saint-Ex.
D'accord.
Saint-Exupéry.
Vol de Nuit.
Voilà. Terre des hommes.
Terre des hommes.
D'accord. Terre des hommes. J'ai lu le général de Gaulle un petit peu plus tard. Probablement le livre qui m'a le plus marqué, c'est Au large et au fond, l'histoire d'un sous-marinier, un illustre inconnu, mais qui m'a marqué parce que j'y ai découvert cet univers très particulier entre enfermement et cohésion. Et voilà, donc je dirais un spectre de lecture très large. Pilote de guerre et Terre des hommes probablement ont suscité chez moi le début de ma vocation.
Ok, merci.
Alors, vous appartenez à la promotion de Saint-Cyr, général Monclar. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est le général Monclar?
En quelques secondes, Magrin Verneret, un officier français et un général. Je retiendrai qu'un épisode qui dépose ses étoiles de général. Met son galon de lieutenant-colonel et repart, alors qu'il pourrait être, goûter aux joies de la retraite, repart commander le bataillon français en Corée.
Est-ce que vous le feriez vous-même?
Qui sait, pourquoi pas?
Belle conclusion. Eh bien, mon général, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Jean-Luc, merci Thomas. C'est toujours un bonheur de vous avoir à mes côtés dans cette émission. C'est sa 4e saison d'ailleurs, je le rappelle. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain avec mes chroniqueurs le mardi 10 novembre. En attendant, vous pouvez réécouter notre émission en podcast sur notre site www.rcf.fr, émission des forces et des hommes. Et ce soir, j'adresse un petit coucou à Anne, qui est une des auditrices de chaque mois. Alors Anne, si vous nous entendez, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite d'excellents moments sur RCF. Au revoir.